Sur les voies du paranormal, Marc Menant, toujours en compagnie d'Evelyne Elsa et Sœur Valarino, directrice adjointe de la bibliothèque de la faculté de droit de l'Université de Genève, et Éric Rollet, président de l'association ONDE, Observatoire national de discernement des énigmes scientifiques.
Et oui, Jackie, et on est dans le grand feu, le brasier, l'enfer, ce matin. Apparemment, au 01 42 32 15 15, vous n'êtes pas spécialement sceptique, mais disons que, apparemment, c'est pas véritablement votre truc d'envisager l'enfer. Et si je me réfère, entre autres, ça résume bien l'ensemble de vos appels. Pascal qui dit « Il est impossible qu'il y ait des NDE négatives, elles ne peuvent être que positives, j'en ai vécu deux, elles étaient hyper positives à 40 ans. » Et alors déjà, je ne savais pas qu'on pouvait en vivre plusieurs, mais apparemment, il y a les abonnés.
Bien sûr. Ah bon, d'accord. Ah, c'est clair. Et je suis très contente pour lui, mais ça ne veut pas dire que... ça veut pas dire que ça n'existe pas si elle n'en a pas vécu.
Voilà, nous sommes d'accord.
Mais il n'y a que 4%, 4 à 5% de gens qui vivent des ND négatifs, c'est très peu.
Alors, est-ce qu'il y a une catégorie sociale? Bon, 4 ou 5%, ça fait combien de cas? Ça fait 1000 cas, 2000 cas
Je n'ai pas calculé. Je peux vous dire qu'aux États-Unis, on estime à 13 millions d'Américains qui ont vécu une NDE. Vous faites le calcul,
ça fait donc 600 000 personnes à peu près qui auraient vécu une négative.
Voilà.
C'est quand même pas mal.
Hein? Tout à fait.
Alors, est-ce que ce sont avant tout des femmes? Est-ce que ce sont avant tout des hommes? Est-ce que, selon la catégorie sociale, on est plutôt menacé par le phénomène ou pas?
Alors, comme pour les NDE positifs, il n'y a aucune implication d'aucune sorte, soit par le sexe, soit par le niveau d'éducation, l'ethnie, les croyances religieuses, l'emplacement géographique. Rien n'entre en compte, c'est une expérience simplement de l'être humain qui nous concerne tous à la même enseigne. Donc, je suppose que c'est valable également pour les NDE négatives.
Alors,
rien n'influence.
Bon, pour autant, l'âge aurait peut-être une raison à être retenu, puisque tout à l'heure vous disiez, chez les enfants, on n'a pas d'exemple de NDE négative.
Non, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, simplement on n'en a pas connaissance.
Oui, mais enfin, un enfant, il n'aurait pas à culpabiliser de dire, c'est terrible moment ce que j'ai pu vivre, etc. Et au contraire, il aurait besoin de s'en libérer, non ?
Il le raconterait, oui. Peut-être ça existe, mais dans la littérature anglo-américaine que je connais pourtant assez bien, je n'ai jamais rencontré.
Est-ce que toute NDE, rappelons que la NDE, tout simplement, bon, c'est une codification qui nous vient de l'américain, mais sinon c'est donc l'état de mort imminent, hein, ce moment où on est considéré par les médecins qui vous entourent comme étant mort cliniquement, donc théoriquement en train de basculer, et puis soudain vous rejaillissez à la vie. Je crois que c'est clair, mais c'est redit une bonne fois pour ceux qui nous arriveraient seulement maintenant. Alors Éric Rollet, est-ce qu'au départ, il y a toujours l'idée de décorporation ?
Oh non, pas toujours, mais c'est vrai que ça revient dans beaucoup de témoignages. Mais il y a des personnes qui se retrouvent directement dans la lumière, sans passer par les cases sortir du corps et tunnel. Il y a effectivement beaucoup de variantes hein, dans les témoignages. Juste une petite parenthèse, au sein de ONDE, moi personnellement, j'en ai rencontré deux témoins qui ont vécu une NDE négative, donc ça existe. En tout cas, il y a des gens qui rapportent avoir vécu ce type d'expérience, ça faut être clair. Hein.
Mais est-ce que ceux qui se retrouvaient donc emportés par Lucifer, est-ce que ceux-là avaient la vision de la scène, puis, s'ils étaient opérés, apercevant le chirurgien, et est-ce que cette vision était positive en voyant des gestes qui devaient les conduire à la résurrection, donc à la guérison, ou est-ce que là aussi c'était noir autour d'eux?
Oui, ça dépend des témoignages, mais effectivement on va retrouver dans un des témoignages ce cas-là, c'est-à-dire une jeune femme qui fait une tentative de suicide, qui va se retrouver dans la lumière, puis emmenée par un être de lumière dans un espace extrêmement grisâtre, dans lequel surgissent des êtres pleins de bonté, mais eux-mêmes habillés de haillons, tout grisâtre également, et qui lui disent « voilà ce que ça rapporte de se suicider ». Il faut faire attention, il ne faut pas mettre fin à ses jours, il faut respecter la vie. On retrouve ce genre de témoignages et effectivement, donc il y a un enseignement au cours de la NDE qu'on retrouve dans certains témoignages.
Alors ça c'est l'enseignement, mais sinon au départ, est-ce qu'il y a eu la décorporation? Est-ce que cette décorporation était observée comme s'orchestrant bien autour du corps qui était soigné par les médecins, ou est-ce que là encore, c'était une vision d'épouvante?
Non, pour son cas, elle est passée par la sortie du corps, elle a vu son corps, c'est arrivé chez elle, donc elle n'a pas vu les médecins, mais elle a bien vu son corps, elle a bien vu son chat à côté de son corps.
Mais est-ce qu'il y avait un côté écœurant, dégoûtant?
Non, pas dans ce stade-là, le stade est arrivé après, le stade angoissant, on va dire.
Mais l'observation était positive?
L'observation était tout à fait objective, voilà, tout à fait neutre, comme la plupart des descriptions en sortie du corps. La personne est détachée complètement.
Evelyne ?
Oui, je voulais juste ajouter une chose qui me semble assez intéressante. Statistiquement, nous savons que les gens qui ont tenté de se suicider et qui ont fait une NDE ne recommencent pas de deuxième ou nouvelle tentative de suicide. Pourquoi ? Parce que pendant leur NDE, il leur a été signifié, ils ont compris que chaque être à son heure pour mourir, à certaines tâches à faire sur Terre, et que provoquer la mort d'une manière prématurée ne sert à rien. Et on sait statistiquement, contrairement aux gens qui veulent se suicider, qui n'ont pas fait de NDE, qui recommencent très souvent, les gens qui ont fait une NDE, dans leur grande majorité, ne font pas une nouvelle tentative.
Mais attendez, si j'interprète bien ce que vous dites, on doit, donc on serait relativement prédéterminé, on doit effectuer certaines tâches sur Terre. Si donc, on échappe à ce qui nous a été donné d'effectuer en tentant le suicide. On vous rappelle à l'ordre en disant, mon petit bonhomme, pas question, il faut que tu ailles au boulot.
Tu n'as pas fini.
Bon,
voilà.
Mais ça veut dire aussi que celui qui réussit son suicide, il était programmé le suicide, alors ça devait se conclure comme ça.
Mais on n'a pas de témoignage sur des gens qui ne reviennent pas.
Mais simplement, l'extrapolation,
mais
c'est celle-là.
Mais nous n'en savons rien.
Parce que si là, on ne les rappelle pas à l'ordre, c'est que c'était leur destin. Ils devaient aller jusque-là.
C'était leur heure, certainement.
Bah d'accord, bon, alors on va essayer de démêler tout ça avec un psychologue, je crois qu'il est le bienvenu, et puis ensuite nous aborderons le cas des aveugles de naissance qui, eux aussi, vivent des NDE, et jusque-là, ils étaient incapables d'avoir une visualisation de notre environnement, de leur environnement, et puis pourtant, les images leur viennent, incroyable mais vrai. Alain Brémond, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes psychologue, clinicien hospitalier.
Oui.
Lorsque vous entendez tous les propos que nous tenons depuis tout à l'heure, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est en pleine hallucination et que tout ça, c'est peut-être dû aussi, tout bêtement, au gaz que l'on aspire au moment de l'opération, puisque là, votre univers à vous, c'est celui de l'hôpital.
Oui. Bien, disons que on a, en travaillant autour de ces cas, on a essayé bien sûr de se poser cette question. Et je crois qu'on a, pour ceux en tout cas qui sont penchés, on a essayé bien sûr de se sortir un petit peu de cette idée là que c'était des états confuso oniriques. L'hallucination, elle est souvent décrite en étant un phénomène spatial, un phénomène sensoriel qui est projeté comme ça dans l'espace. Et ici, ce n'est pas le cas.
Alors comment expliquer qu'il y en ait qui est soudain, ce désastre qui leur tombe dessus et cette vie éternelle qui serait l'abomination des abominations.
Ben, si vous voulez, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on se laisse pas. En tout cas, ma position à moi, c'est d'essayer de ne pas se laisser enfermer dans des catégories comme l'enfer et le paradis, qui sont, de mon point de vue en tout cas, la position dont je me place, plus des représentations, des représentations symboliques de l'irreprésentable. C'est-à-dire quelque chose qui est soit du côté de l'amour, soit du côté de l'angoisse.
Oui, alors pourquoi il y aurait des êtres qui seraient autant marqués par l'angoisse, alors que de leur vivant, il semblerait qu'ils aient plutôt été de ceux qui vivaient dans l'allégresse ?
Moi, je n'ai pas de réponse forcément à toutes vos questions. Hein. On essaye.
C'est pour ça que je vous pose des questions.
Oui, je sais. Mais ma position à moi, elle est surtout la position de quelqu'un qui va s'interroger et qui va s'interroger avec une méthode pour essayer d'envisager un ensemble de possibilités.
Alors justement, soyons dans cette...
Oui, l'idée a été reprise quand même, tout au long de votre émission qui était de dire l'angoisse est quand même une des caractéristiques de la personne, et on a quand même l'impression dans ces NDE, donc il faudrait bien s'assurer d'abord que ce soit une NDE, et ensuite NDE négative, qu'il y a une composante personnelle extrêmement forte de lutte d'angoisse contre la mort, qui peut-être s'exprimer à ce moment-là.
Non, mais quand même, est-ce que vous ne trouvez pas invraisemblable, voire illogique donc, que quelqu'un qui se sente véritablement heureux, qui se trouve menacé d'être aspiré par l'autre monde, s'il existe, se retrouve dans cette angoisse, alors qu'il n'a pas de raison d'être dans l'angoisse. Il l'ignore presque, à la limite, il l'a toujours rejeté.
Oui, justement. Mais peut-être que là, on a affaire à une fausse idée du bonheur. Vous pouvez être quelqu'un d'heureux, tout simplement parce que vous n'avez pas encore atteint, j'allais dire, vos tripes, vos émotions profondes. Vous ne savez pas, vous n'avez jamais été face au danger, donc vous ne savez absolument pas ce que vous valez. Et là, à ce moment-là, quand vous êtes face à la mort, c'est une expérience, j'allais dire, tellement bouleversante et tellement forte que vous êtes tout seul face à vous-même. la lumière amour qui est vue et qui est ressentie par les témoins, ce n'est que quelque chose qui vient stimuler quelque chose qu'il y a en eux. Vous ne pouvez pas voir les sentiments comme vous voyez une personne.
Alors, on a fait une émission sur la pensée positive. L'être positif, c'est celui qui se débarrasse de ce qui vient le grignoter, de ce qui vient le rogner de façon négative, et donc, qui se constitue un état d'esprit valorisant. Est-ce que celui-là pourrait, là encore, vous n'avez pas la réponse, mais simplement vous pouvez tenter une interprétation, pourrait s'immuniser, se dimitratiser, pour utiliser un terme, tiens, il m'est venu comme ça, contre le phénomène.
Je ne sais pas, je suis pas sûr du tout, parce que cette question de vision positive, il faudrait qu'elle atteigne vraiment les couches profondes.
Bah, théoriquement, vous êtes d'accord avec moi, c'est-à-dire que l'être positif semblerait pouvoir guérir, parce qu'il s'est donné donc une sorte de fond qui va toujours dans le sens de ce qui est valorisant, de ce qui est entraînant, de ce qui est galvanisant. Alors celui-là, il n'y a pas de raison qu'il abandonne ce type d'état d'esprit.
Oui, je ne prends pas pour argent comptant forcément tout ce que vous avez dit. En tout cas, il est certain qu'on peut se forger une espèce d'idée. Mais à mon avis, si ça reste superficiel, ça va peut-être venir que masquer un petit peu les difficultés profondes et l'angoisse
profonde
de la personne.
Non, mais je suis d'accord avec vous, j'ai bien insisté sur le fait, ce n'est pas le superficiel. Le principe de la pensée positive ou la méthode Coué, ce n'est pas l'abrutissement et de se donner l'illusion de... C'est quand on se forge une intime conviction, donc qu'au fond de soi, c'est véritablement enraciné. Est-ce que celui qui arriverait à cet état-là ne serait pas dans une sorte de sagesse, de félicité inconsciente, qui lui garantirait de ne pas déboucher en enfer ?
Non, franchement, je ne m'avancerai pas à formuler des réponses de cet ordre-là. Il me semble que de toute façon, la personnalité est en partie, si ce n'est le plus, constituée par les désirs de la personne. L'idée de la pensée positive, malgré tout, m'apparaît aussi avec cette idée de réalisation de ses désirs, de ses ambitions personnelles. Et je ne vois pas franchement comment ça pourrait protéger quelqu'un de ses angoisses au moment où elle se retrouvait seule face à sa mort.
Bon, Alain Brémond, merci. Alors, Evelyne, vous, est-ce que vous croyez que si on arrive à se constituer ce fond, est-ce que ça vous permettrait d'éviter de tomber là ?
Moi, je suis plutôt d'accord avec vous, mais je ne parlerai pas de la pensée positive, qui est une chose intéressante. Je parlerai plutôt d'un véritable cheminement intérieur. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on peut, de son vivant, et qu'on doit se préparer à la mort, dans l'idée de Platon, qui a dit que toute la vie, toute la rhétorique ne sert qu'à se préparer à la mort dans une incessante répétition. Je suis assez d'accord avec ça. On peut être un bon vivant, on peut être très joyeux, très gai, avoir des activités très, très marrantes, et en même temps, de temps en temps, réfléchir à l'après-vie, se préparer spirituellement, comme j'ai dit, par la lecture, par la réflexion, par les moyens qui convient à chacun. Et là, je pense qu'au moment de la mort, on affronte la mort avec plus de sérénité. Et ça doit jouer sur le type de NDE qu'on vit.
Alors, je retiens surtout ça, c'est le fait qu'éventuellement, si on se place dans un certain état d'esprit, on aura une incidence sur ses projections. Alors, pour autant, est-ce que ces projections, si on retient cette idée-là, sont totalement hallucinations, ou est-ce qu'il ne faut bien nous considérer ces NDE d'une autre manière ? Et là, abordons le cas des aveugles de naissance, qui n'ont jamais eu la moindre perception de notre monde. Éric Forlet.
Avant de laisser la parole à Evelyne, bien sûr, pour les aveugles de naissance, donc justement, pour faire une transition, ce qui est intéressant dans les témoignages de NDE, c'est effectivement quand on retrouve des descriptions de lieux, notamment de lieux hors de l'endroit où se trouvait la personne au moment de sa NDE, lorsqu'elle décrit par exemple un cas célèbre aux États-Unis qu'il y a une petite chaussure sur le toit de l'hôpital, lorsqu'elle est capable de dire ce qui se passait dans d'autres pièces ailleurs, ou même chez elle, avec des descriptions très très détaillées qui ont été vérifiées, effectivement là on se trouve très très loin de l'hallucination. La personne voit des choses qui sont bien réelles et on peut le contrôler. Donc là, il n'y a pas de problème. Et effectivement, on va retrouver ça, c'est encore plus fort, chez les aveugles de naissance. Et là, effectivement, les témoins aveugles, les aveugles de naissance qui peuvent témoigner de telles expériences vont se mettre à décrire, à avoir vu des choses qu'ils étaient effectivement pas censés pouvoir voir, encore pire dans leur cas, parce qu'ils n'ont jamais vu.
Alors, il y a Karine qui a 24 ans, elle est professeure des écoles stagiaires. Elle nous dit, pour moi, les NDE sont dus à une confusion du cerveau qui n'est pas assez irriguée. C'est pour cela que les aveugles ont des visions. Alors là, on est en plein dans le thème.
Ils n'ont pas des visions, ils voient les choses qui se passent, c'est pas la même chose.
D'accord, mais est-ce que le fait d'avoir un cerveau qui soudain n'a plus son fonctionnement normal, pourrait permettre de créer le phénomène.
Mais alors, ces personnes devineraient. Vous voyez, ça n'a aucun sens, c'est pas logique. Et en plus, on sait que dans ces états-là, le cerveau, justement, ne fonctionne plus.
C'est important de le souligner. Donc, qu'arrive-t-il à ces aveugles de naissance? Soudain, ils voient, quand vous parliez tout à l'heure de la lumière, du paradis, oui. Soit d'un décor extrêmement chatoyant, soit de l'autre côté, d'images avec ces êtres qui sont dans le désespoir, qui hurlent, qui sont décharnés, qui sont en haillons, là, soudain, eux aussi, ils sont capables d'apprécier ça, alors que jusque-là, ils ne pouvaient pas faire le descriptif.
Oui, alors j'aimerais peut-être juste situer, donc, Kenneth Ring, pour revenir encore sur ce chercheur américain très connu dans le domaine des NDE, a écrit un livre, et j'ai eu le plaisir d'être son co-auteur, un livre qui s'appelle « Lessons from the Light », et il va paraître bientôt en France. Dans cet ouvrage-là, il y a un chapitre qui est consacré aux aveugles, aux NDE des aveugles, y compris aux aveugles de naissance. Alors, ce qui se passe dans cette étude, qui a donc donné lieu à un chapitre dans cet ouvrage, c'est que Kenneth Ring, il a découvert, par une étude minutieuse, que des aveugles voient pendant leur NDE. Et il voit deux types de choses. Il voit ce qui se passe pendant leur décorporation au début de la NDE, mais dans notre dimension. Donc, il voit les scènes de réanimation, de l'accident, les gestes de l'équipe médicale, et ils peuvent le décrire.
Alors que jusque-là, jamais il n'était capable de dire une table, elle est de telle forme, tel objet, etc. etc. Bon, je ne sais même pas si un aveugle de naissance se crée une sorte de visualisation, s'il y échappe totalement. Mais toujours est-il que là, soudain,
il voit.
Il s'exprimait d'une autre façon, et comme s'ils appartenaient à notre monde, à nous. Enfin, ils
au
y
monde
appartiennent,
des vivants.
Enfin, je veux dire par là. Voilà.
Tout à fait. Oui. Et alors, c'est très désorientant pour eux. Premièrement, on sait que d'écrire une NDE, c'est difficile, mais d'écrire une NDE quand on est aveugle de naissance est encore plus difficile, parce qu'ils n'ont pas de repères. Ils ont vu pour la première fois de leur vie. Et là, j'aimerais juste vous lire deux phrases d'une jeune femme aveugle de naissance qui en fait une NDE et qui a vu la première fois de sa vie des choses de notre monde et aussi de l'autre monde, mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'elle a vu pendant sa décorporation. Et elle dit, c'était très étrange. Comment expliquer cela avec des mots? C'était comme entendre des paroles et ne pas être en mesure de les comprendre, tout en sachant qu'il s'agit bien de paroles. En partant du principe qu'avant, on n'avait jamais rien entendu. Il s'agissait de quelque chose de complètement nouveau pour moi, quelque chose qui n'avait absolument aucune signification pour moi auparavant. Vous voyez la force de ce
C'est
témoignage.
C'est-à-dire que, je pense que l'aveugle, de façon tactile, il devine, il se fait une idée d'une chaussure. Mais de là à pouvoir voir toute la fantaisie de la chaussure où il va se retrouver, soyons un peu plus oniriques, devant la Joconde, à force d'entendre les commentaires de la Joconde, il se fait une idée, alors laquelle je ne sais pas, mais toujours est-il que là, soudain, il verrait la Joconde, c'est ça?
Et
serait capable de la constituer.
Mais c'est clair. Et ça constitue un choc important pour ces gens-là.
Et de se faire enfin une idée sur les couleurs, parce qu'au-delà des formes...
Alors les couleurs, c'est intéressant que vous parliez de couleurs, parce qu'ils ne peuvent pas donner un nom aux couleurs. Ils ne savent pas que... Le rouge, pour nous,
oui,
c'est le rouge.
Mais simplement...
Mais ils voient des couleurs.
Ils voient des nuances.
Mais ils ne connaissent pas les noms des couleurs. C'est passionnant.
Alors ça, c'est bon, ça peut que les déboussoler, mais quand ils reviennent, alors ils se disent vivement la prochaine NDE, quel état d'esprit?
Je ne sais pas, je pense que ça leur donne beaucoup d'espoir, comme à tous les expérienceurs, parce qu'ils savent que quand ils vont mourir pour de bon, ils vont retourner dans ces dimensions d'une béatitude énorme et d'une très grande beauté, et comme c'est rassurant pour les autres, c'est rassurant aussi pour les aveugles.
Mais attendez, l'expérience, elle est plus complète, c'est qu'ils ont la découverte de deux mondes. Ils ont la découverte d'un monde dans lequel ils sont depuis longtemps, vivent intégrés, ils ont un dynamisme, parce que les aveugles sont souvent des gens extrêmement entreprenants.
Oui.
Et simplement, ils le découvrent de façon beaucoup plus concrète. Alors déjà, c'est la vue d'un monde. Et puis après, il y a la vue d'un autre monde.
Oui, alors, tout là, à fait, qui est le même alors qu'on soit vaillant ou aveugle.
Et cet autre monde devient d'autant plus crédible qu'il y a l'ajout de la première découverte.
Je suis d'accord avec vous. Je ne peux pas vous dire comment ils ressentent la chose, s'ils ont envie de vivre tout de suite une nouvelle NDE. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'aucun expérienceur aveugle ou voyant n'a jamais tenté de provoquer une nouvelle NDE. Parce qu'ils savent que ça n'aurait aucun sens, que les choses arrivent au moment où elles doivent arriver.
Alors dans les fiches que nous avons, je ne peux pas toutes les exploiter, mais il y a l'idée quand même de la drogue, hein, des expériences qui ont été menées en particulier sous LSD. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ces expériences-là et celles de mort imminente ?
Oui, il y a eu des parallèles qui ont été faits par des chercheurs. Effectivement, on va retrouver certains points communs, mais de toute façon, à ma connaissance, les expériences de drogue n'ont pas l'impact, ne produisent pas un impact aussi durable qu'une NDE. Déjà, ça c'est très clair.
Bon, mais est-ce qu'un aveugle de naissance qui se retrouverait sous expérimentation avec une prise de LSD pourrait, là encore, avoir des visions ?
Pour les aveugles, je sais pas, mais je peux vous parler d'un cas d'un monsieur que je connais, dont j'ai inclus le témoignage dans mon ouvrage, un Californien qui était drogué pendant 20 ans. Il essaie toutes les drogues dures qui existent et c'était un vrai drogué pendant 20 ans. Il a fait une NDE et après, grâce à la NDE, il a pu abandonner la drogue. Et je lui ai posé la question précisément. J'ai dit, est-ce que ce que tu as vécu pendant ta NDE avait une quelconque ressemblance avec tous les trips que tu as fait et toutes les drogues que tu as utilisées ? Il a dit, ça n'avait rien à voir. Aucune comparaison, ce sont deux choses complètement différentes. Tout ce que j'ai vécu sous drogue était angoissant, était artificiel. Et ce que j'ai vécu pendant ma NDE était d'une nature totalement et complètement différente.
Oui, mais pour autant, on ne peut pas nier que des témoignages rapportent que certains sous-effets psychédéliques ont des vues. Alors, les éléphants qui volent, enfin, moi, je sais pas, je bois de l'eau.
Oui, mais les effets ne sont pas les mêmes.
Oui, mais après,
ils n'en reviennent pas transformés.
Non, d'accord, mais il y en a qui voient quand même des choses extrêmement grisantes.
Ouais. Oui, c'est là où je parlais des points communs, mais ça s'arrête là.
Ça s'arrête là.
Et puis lors des NDE, on n'a pas vu beaucoup d'éléphants voler, je ne crois pas. Mais il y a une sorte de délire. Il n'y a pas une surconscience. Il y a aussi une sorte de délire, c'est-à-dire que la personne ne maîtrise même pas ce qu'elle vit au niveau de la drogue.
C'est-à-dire que d'un côté, il y a le cerveau qui est suractivé, alors que de l'autre côté, théoriquement, le cerveau est mort.
Voilà, c'est ça. Et la personne est tout à fait maître d'elle-même au niveau de la NDE et va parfaitement, si ce n'est contrôler, savoir mesurer avec précision ce qu'elle est en train de vivre. Il n'y a pas de problème. Alors qu'au niveau d'une drogue, ce n'est pas du tout le cas.
Il n'y a aucune lucidité. Mmh. Oui, tout à fait. C'est la différence. Et puis aussi l'impact. Il faut juger l'arbre à ses fruits.
Alors restons, après il nous faudra conclure, sur ce prolongement de l'expérience de l'aveugle de naissance. Non seulement, d'abord il quitte son corps. Pour la première fois, il a une notion de l'environnement qui a toujours été le sien, puisqu'il y a cette décorporation, oui. Il voit le médecin autour de lui, il découvre les objets, etc. etc.
Il découvre son corps aussi, qu'il n'a jamais vu.
Oui, qu'il n'a jamais vu. C'est quand même fou, ça.
C'est fascinant.
Ouais. Et est-ce que lorsque la prolongation le conduit dans le tunnel et qu'il arrive soit à la lumière, au paradis, soit à l'enfer, est-ce que les images se corrèlent ? Est-ce qu'il y a une prolongation logique ou est-ce que les images sont complètement différentes ?
C'est comme pour les expérienceurs voyants. Il y a la vision de notre monde, des gestes de réanimation, etc., qui sont les mêmes pour les aveugles et pour les voyants. Et après, partant le tunnel, ils sont dans l'autre dimension et là, les témoignages sont exactement identiques pour les voyants et pour les non-voyants. Mais j'aimerais juste dire une chose. Vous avez dit, il y a le tunnel et après, on part soit dans une expérience positive, soit dans une expérience négative. J'aimerais quand même que les auditeurs soient conscients que 96% des gens...
96 qui est 96.
Qui est 96.
Ah, les Suisses, hein.
Partent dans une expérience positive. C'est quand même important et c'est pas moitié-moitié.
Hein. Oui, non, d'accord, mais simplement...
Ça me paraît important de le dire.
Mais pour une personne qui n'a jamais vu de corps humain, qui découvre le sien, qui découvre la physionomie de ceux qui l'entourent,
oui,
qui sont autour de son corps, s'affairant pour essayer de le sauver. Et si elle se projette qu'il y a des êtres qui lui apparaissent, que ce soit des décharnés ou des êtres de lumière, est-ce qu'ils ont la même configuration que ceux qu'ils viennent de voir, alors qu'auparavant, ils ignoraient tout de cette image-là ?
Je crois que sur le moment, c'est très choquant. Après, il s'habitue lentement et c'est fascinant, mais de toutes les façons...
Enfin, c'est rapide tout ça, hein. Quand vous dites lentement, ça ne va pas durer des heures.
Oui, mais vous savez, les expériences de mort imminente se passent dans une dimension qui est en dehors du temps. Il n'y a plus le temps, il n'y a pas la même notion du temps. Donc, rapide ou lent, ça ne veut plus rien dire. Mm-hmm. Et puis après, ce qui est important aussi, c'est une fois qu'il quitte notre dimension, il se désintéresse du corps, comme les voyants. Les gens voyants, c'est plus important du tout. Vous voyez, ils partent ailleurs et ils abandonnent tout à fait ce côté matériel, ça ne les intéresse plus.
Eh bien voilà, un mot de conclusion, Eric Rollet.
Oui, je pense qu'après tout ce qui a été dit, je crois qu'il faut vraiment attirer l'attention des milieux médicaux pour avoir beaucoup plus d'attention par rapport à ce type de témoignages qu'ils peuvent retrouver dans les hôpitaux. Effectivement, il peut y avoir des confusions, il peut y avoir simplement des hallucinations. Il y a aussi des témoignages véridiques. La plupart des témoins de NDE nous rapportent qu'ils ont été rejetés dans les hôpitaux, assimilés très vite à des hallucinations, alors qu'ils savaient bien que ça n'avait rien à voir avec une hallucination.
Et là, le cas des aveugles en particulier met un sacré doute sur les hallucinations. Le président de l'association ONDE, Eric Rollet, vous donne rendez-vous à Dijon le 7 novembre.
Le 7 novembre et le 14 à Colomiers.
Voilà, pour parler de ce sujet-là, justement. Et je rappelle l'ouvrage d'Evelyne Elsesser-Valarino, ce livre d'une vie à l'autre avec des scientifiques qui explorent le phénomène. Donc, c'est aux éditions Dervy.